Bonsoir, merci d'être venu à cette rencontre avec Diane Ducret, qui est l'auteur de l'un des grands succès d'histoire de ce début d'année, avec Femme de dictateur aux éditions Perrin. Alors, vous avez une formation d'historienne, une formation de philosophe, vous avez réalisé des documentaires pour la télévision, et là, vous vous attaquez à un sujet étonnant, et je pense que c'est aussi pour ça que l'ouvrage a rencontré un grand succès, et assez peu traité, qui sont les femmes de dictateurs. Le livre, en fait, a deux parties de taille très, très inégale, mais qui sont donc l'introduction et puis les cas, de cette façon, la présentation de ces différentes femmes. Mais le mérite de votre introduction, c'est qu'elle traite à la fois un autre sujet, mais qui est l'autre versant de votre sujet, puisque ça commence par un certain nombre d'extraits de lettres reçues par Hitler et Mussolini, et qui se comptaient, je crois, par dizaines de milliers.
Oui, c'est vrai. Donc, les dictateurs étaient avant tout de grands séducteurs. C'est une face de l'histoire que l'on enseigne très peu. On nous apprend habituellement que la dictature est une histoire d'hommes et d'idéologie, finalement. Bien au contraire, c'est vrai que très tôt, ils vont comprendre qu'il n'y a pas de pouvoir totalitaire sans la moitié de la population, à savoir les femmes. Et j'ai voulu, en introduction, plutôt que, une fois de plus, parler de moi ou en mon nom, laisser parler ces femmes qui ont été séduite par ces personnalités que sont Hitler, Mao Tse-tung, Staline ou Lénine. J'ai donc réussi à exhumer certaines des lettres qui étaient envoyées aux chancelleries privées de Mussolini et d'Hitler, qui sont inédites encore, qui étaient inédites jusqu'à présent. Et ce sont des véritables lettres d'amour qui sont passionnées. Certains reçoivent des demandes en mariage, des contrats de mariage même, où ils n'auraient plus qu'à apposer leur signature, des poèmes, des cadeaux, toutes les déclarations les plus folles et imaginables. Pour se donner un petit ordre d'idée, c'est vrai que Hitler en a reçu plus que les Beatles et Mick Jagger réunis. Donc on imagine, ça donne un ordre d'idée. Mussolini en recevait entre 30 et 40 000 par mois. C'est énorme, et la plupart, ce sont des femmes. Alors le fait intéressant, c'est que finalement, les femmes signent toujours de leur nom, alors que les hommes jamais, comme si quelque part ils avaient peur d'envoyer, tandis que les femmes assument soit leur demande en mariage, soit au contraire leur petit fantasme qu'elles envoient, avec leurs photos souvent. Et pour Mussolini, elles font bien, puisqu'il reçoit les plus jolies d'entre elles, pour un quart d'heure italien, on dirait, plus qu'américain.
Oui, il y a même ce que vous dites, c'est qu'à la fois elles signent en leur nom, et elles se permettent même pour certaines des remontrances ou des conseils dont on peut imaginer, s'ils avaient été prodigués par des hommes, qu'ils leur auraient causé bien des soucis.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les dictateurs ont une relation très particulière avec les femmes. Dans l'introduction, ce que je voulais montrer avec ces inconnus, puisqu'après tout, ils ne les connaissent pas, ils ne les ont jamais vues, c'est qu'elles peuvent se permettre d'établir une relation personnelle avec le dictateur, ce qu'un homme ne pourrait pas se permettre. Certaines vont demander des choses très particulières, une machine à coudre pour pouvoir survivre en temps de guerre, au contraire, le retour d'un fils sur le front, et parfois même, ils acceptent d'honorer leurs demandes. D'un homme, on ne peut pas l'imaginer. C'est que le dictateur, très tôt, va tout de suite se lier aux femmes. Ils ont tous en commun, finalement, d'accepter beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Ils s'entourent exclusivement de femmes, et ils ne peuvent faire confiance qu'à des femmes dans leur entourage les plus proches. Les hommes sont toujours potentiellement des rivaux politiques, ce que les femmes ne peuvent jamais être pour eux, selon eux.
Et sachant que les exemples que vous donnez donc dans l'introduction, en plus, sont des cas assez particuliers, parce que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous ne traitez pas seulement des dictateurs, entre guillemets, les plus connus, mais il y a par exemple la figure de Salazar, qui est connue, mais souvent méconnue en France. Et pour revenir à l'introduction, donc en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des cas de dictateurs dans lesquels il y a un enjeu du corps, il y a un enjeu de la séduction au niveau de la politique. Enfin, on connaît les histoires d'apprentissage par Hitler, des postures, de la rhétorique, etc. Et s'il y a un dictateur qui a mis en jeu son corps comme instrument politique, c'est bien Mussolini qui a fait, dans les reproductions, torse nu et menton en avant sont assez innombrables.
Oui, complètement. C'est vrai qu'ils ont tous un rapport au corps qui est à la fois essentiel, puisque c'est l'instrument de leur politique. La dictature ne repose pas sur des critères objectifs de politique, mais sur une suggestion totale qui s'incarne dans la personne du dictateur. Ils vont tout de suite mettre leur corps en avant, leur esthétique va être extrêmement soignée. Hitler fait des séances de pose chez son photographe afin de trouver les meilleurs profils. Mussolini fait, dès lors qu'une rumeur le dit malade d'un simple rhume, va prendre soin de faire une séance photo, torse nu sur la mer, à cheval, dressé sur ses deux étriers, en lançant à la foule, allez dire maintenant que je suis malade. Ils ont besoin d'établir leur corps comme une sorte de relique finalement de leur pouvoir. Néanmoins, ils ont un rapport au corps très varié. On a Mussolini qui vit pleinement son corps, son érotisme et sa sexualité, puisqu'il se vante de pouvoir consommer, c'est le terme qu'il emploie lui-même, jusqu'à 14 femmes par jour. Tandis que quelqu'un comme Hitler, au contraire, a besoin, lui, de posséder psychologiquement les femmes et les autres. Il le dit lui-même, je me passe fort bien du désir de posséder physiquement une femme depuis longtemps. Ce n'est pas quelqu'un de physique dans son rapport aux autres. On a également quelqu'un comme Staline, qui est, lui, extrêmement complexé, qui va d'un côté, en effet, être partout en photo, mais ordonner que l'on retouche son image, le visage étant marqué par la vérole, des cicatrices de vérole. Il a un bras plus court que l'autre, ce qui l'empêche de danser avec une femme convenablement. Il s'en plaint, il a des orteils palmés, il ne supporte pas d'enlever ses chaussettes. Et quand les médecins du Kremlin doivent l'examiner, il cache son visage sous les couvertures. Il y a donc un rapport à la fois d'exposition du corps, d'érotisation même, puisqu'ils comptent vraiment sur leur séduction pour s'attirer un électorat ou la sympathie d'une foule très nombreuse, mais à la fois avec beaucoup de complexes finalement.
Alors, ça pourrait être une question conclusive, mais on va commencer comme ça, mais avant de rentrer dans les cas singuliers que vous traitez, suite à justement à ces lettres et aux différents parcours que vous tracez, est-ce que pour vous il y a vraiment une liaison inévitable de cet enjeu de séduction avec l'enjeu de pouvoir ? Ou est-ce que c'est propre à ces figures-là que vous étudiez ? Dans plusieurs interviews, vous notez que vous n'avez pas pu faire l'analyse symétrique des hommes de dictatrices parce que il n'y a pas historiquement d'exemple ou probant ou au moins ayant laissé des traces de dictatrices.
Non. C'est vrai que c'est un type de pouvoir qui est propre aux hommes. Alors bon, il y a plusieurs raisons à cela. Bien évidemment, historiquement, pour tout ce qui est Amérique latine, par exemple, les dictatures étant essentiellement militaires, les voies militaires étant fermées aux dames, dès lors, ça facilitait peu l'émergence de dictatures militaires. Pour ce qui est de l'Europe et des dictatures idéologiques, on aurait pu imaginer que cela se passe, ou au contraire, en Asie ou en Indonésie plutôt. Cela ne s'est jamais produit pour l'instant. On a l'impression que les femmes préfèrent rester dans la coulisse qu'elles connaissent bien, qu'elles maîtrisent bien, mais finalement en ayant quelque part l'intelligence de rester en deçà de la ligne de front qui les exposerait à une chute de toute façon inévitable, en restant régente dans les cas des royaumes de sang, puis épouse de dictateurs, elles s'assurent finalement une gloire qui sera certes moins connue, mais qui, elle, ne connaîtra pas de chute finalement.
Alors, avec deux contre-exemples redoutables qui sont Madame Mao et Elena Ceausescu, qui de compagne au début, et là, on peut penser que c'est aussi la structuration idéologique très forte des régimes qui induit ça, prennent peu à peu du pouvoir jusqu'à l'une et l'autre envisager le renversement de leur époux.
Oui, c'est important ce que vous dites, parce que ce sont des régimes très idéologisés. Finalement, on pense souvent, et c'est à tort, l'histoire de la dictature nous l'apprend, que les femmes en politique, finalement, seraient trop, marcheraient un peu trop aux émotions plus qu'aux idées, qu'elles serait trop irrationnel. C'est bien le contraire, c'est tout l'inverse. On s'en rend compte avec le parcours de Madame Mao, la quatrième épouse, Yang Qing, ou d'Elena Ceausescu. Ce sont des femmes qui sont extrêmement sensibles à l'idéologie et vont réussir à, de manière extrêmement scientifique, extrêmement stratégique, à gravir toutes les marches, tous les échelons pour arriver tout près de leur mari au niveau du pouvoir, sans pour autant franchir le pas qui les exposerait. C'est vrai qu'elles ont elles ont toutes deux des ambitions qui sont très très fortes. Elles vont choisir entre guillemets le bon cheval, puisque lorsqu'elles rencontrent leur futur mari, ceux-là ne sont encore que de piètres militants, on va dire, et elles vont les aider, elles vont les coacher même parfois pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont, avec plus ou moins de cruauté dans les deux cas. Tout d'abord, une jalousie irrépressible dans les deux. Madame Mao fait facilement enfermer et torturer toute femme qui aurait la prétention d'être plus belle ou mieux habillée qu'elle. Cela arrive très souvent, malheureusement. Pour Madame Ceausescu, c'est pareil, et c'était plutôt chose facile, étant donné son goût.
Incertain.
Oui, assez incertain, certes, bien que très porté vers le luxe français. Un grand goût pour les colères, finalement, assez irrationnel. Là, par contre, c'est vrai qu'elle va faire une scène à Madame Carter en venant presque aux mains, puisqu'il y avait une sombre histoire de vison entre elles. Madame Carter avait osé porter un vison qui était bien plus beau que le sien, et elle le voulait immédiatement. Ou invitée chez le roi Hussein de Jordanie, trouvant que son yacht était vraiment fort à son goût, elle va l'exiger tout d'abord, et puis une sorte de deal sera conclu, on lui en fera livrer une copie. Il existe toujours et on peut d'ailleurs y célébrer des mariages. Il se nomme Amitié. C'est de bon augure si cela intéresse des gens. Mais ce sont des femmes extrêmement, extrêmement cruelles, en effet, toutes deux, jalouses, paranoïaques.
Sur quoi elles rejoignent pour la plupart leurs époux. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on peut imaginer, une paranoïa propre au pouvoir dictatorial, qui est, dès lors que le pouvoir a été acquis par la force, il y a toujours la crainte qu'il soit perdu par cette même force.
Par la force ou par l'idéologie, en tout cas, dès lors qu'il n'a plus de remparts objectifs ou législatifs, dès lors qu'on balaye la constitution préexistante et que l'on balaye tous les remparts d'autres pouvoirs, et que le pouvoir est rassemblé en un seul et en un parti unique et en une personne unique qui tire sa légitimité de sources complètement irrationnelles. En effet, on a bien souvent des couples de pouvoir qui vont s'imbriquer l'un l'autre, dont les pathologies vont se reconnaître l'un et l'autre et qui sont indissociables l'un de l'autre. Elena Ceausescu et Nicolae ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. On le voit lors de leur procès. Il y a une table, un petit peu comme celle-ci d'ailleurs, sur laquelle il n'y a rien. Et Elena tient une enveloppe marron dans sa main qu'elle serre et qu'elle ne lâche jamais. On a cru bien longtemps que c'était les numéros des comptes en Suisse ou peut-être les noms des traîtres au régime. En fait, pas du tout. Il s'agissait tout simplement de la seringue d'insuline. Car Nicolas était diabétique et insulino-dépendant. Et c'était Elena qui tenait sa seringue. Et toute sa vie, c'est assez symbolique, c'est assez fort de leur rapport. Finalement, elle est sa dose. Il ne peut pas exister sans elle. Voilà.
Sachant que ce qui caractérise aussi, et c'est lié aussi à la question de la paranoïa, c'est un détachement progressif de la réalité. Parce qu'en fait, vous décrivez un peu deux types de femmes de dictateurs, enfin même trois types, on pourrait dire. Il y a les formatrices. Il y a celles qui sont les femmes du pouvoir, c'est-à-dire qui interviennent au moment où le pouvoir est déjà acquis. Et puis, donc, il y a quelques cas, comme celui de Mao ou Ceausescu, qui sont celles qui vont l'accompagner, qui vont accompagner le dictateur tout au long de sa carrière, et généralement, d'ailleurs, jusqu'à la mort. Et effectivement, et donc, dans le cas de Ceausescu, c'est très frappant, il y a ce délire qui va jusqu'à une perte complète de tout repère de gens qui, pour la plupart, au début, sont souvent soit des enfants de petits paysans ou de conditions assez basses socialement.
Oui, c'est vrai. Alors, cela vaut dans les deux sens. Parfois, ce sont les femmes de dictateurs qui vont perdre tout sens de la réalité. C'est le cas, par exemple, d'Eva Braun. Hitler veut volontairement la laisser dans l'ignorance de ce qu'il se passe. Elle est perchée au Berghof, dans cette très belle résidence alpine, et demande des oranges pour, non pas pour les manger, mais pour en faire des jus. Elle ignore complètement qu'il y a des tickets de rationnement dans Berlin, que les Russes sont aux portes de la ville, et quand elle lit dans un journal qu'il y a eu quelques 300 morts dans un bombardement, Hitler fait appeler immédiatement pour dire que c'est l'imprimeur qui s'est trompé, il n'y en a eu que 30. Et donc il fait en sorte qu'elle reste dans cette inconscience, parce que justement pour lui c'est important de pouvoir retrouver une sorte de virginité personnelle auprès de cette jeune femme qui le regarde d'un œil neuf, qui peut passe son temps à aller se baigner ou à pratiquer les sports d'hiver alors qu'en bas l'enfer est en train de se déchaîner. D'un autre côté, parfois, c'est le dictateur qui, lui, s'enfonce dans la perte de réalité parce qu'en effet, il a trouvé une femme dont les névroses vont s'accommoder des siennes et qui va l'aider à finalement, là encore, se racheter une sorte de virginité par la recherche des plaisirs, par l'adoucissement de tout son univers. Madame Mao, Yang Qing, va faire en sorte, dès lors qu'elle aura compris qu'elle ne saura s'attacher à la fidélité de son mari, elle va lui faire une scène un soir qu'elle le trouve avec une infirmière. Elle va comprendre qu'il pourrait la répudier et qu'elle perdrait tout. Et elle va dès lors organiser elle-même des bals où il pourra sélectionner des danseuses et des jeunes femmes tout à fait à son goût. Donc elle va finalement faire en sorte que tout lui soit extrêmement facile du point de vue de la conquête féminine, du point de vue de certaines décisions, jusqu'à l'isoler volontairement. À la fin de sa vie, c'est vrai que tous les téléx, toutes les communications qui passent au palais de Mao doivent passer par madame d'abord. Il n'a donc plus aucune prise avec le réel. Et parfois même, c'est Elena Ceausescu qui va prendre des décisions dans des conseils de ministres, sans même en référer à Nicolae.
Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir un peu justement sur ces figures de femmes formatrices? L'une des parties que je trouvais les plus passionnantes dans votre livre, c'est entre autres concernant la formation, parce que c'est vraiment une formation intellectuelle qui est celle de Mussolini, parce que bon, c'est un parcours assez singulier et qui va jusqu'au moment où c'est la femme avec qui il est à ce moment-là, qui c'est le début de la marche sur Rome. Lui est prêt à aller passer quelques jours en Suisse histoire de voir comment les choses tournent, et c'est elle qui va lui dire non, mais là maintenant il faut prendre les responsabilités, il faut y aller.
C'est même un peu plus fort que ça. Alors que ses troupes sont en train de marcher sur Rome, lui il veut plutôt s'en aller et prendre la poudre d'escampette. Il a peur. C'est vrai que Mussolini ne serait rien sans les femmes, et pas seulement au sens du plaisir ou de la gaudriole, comme on peut le dire, puisqu'en effet il a un rapport assez dont on peut s'amuser avec les femmes. C'est une caricature dont Berlusconi n'arrive même pas à la cheville aujourd'hui. Néanmoins, il ne serait rien sans les femmes au sens le plus fort. C'est-à-dire que, alors qu'il est, quand il est plus jeune, il est une sorte d'Arsène Lupin. C'est un type qui court les femmes des maris alors qu'ils sont au travail ou à la guerre. Il se fait virer systématiquement du travail qu'il essaye d'occuper. Il se balade toujours avec un couteau dans la poche. Il cherche la bagarre. Il ingurgite des quantités phénoménales d'alcool. On le retrouve au petit matin, toujours ivre-mort. Il va partir en exil en Suisse et finalement, il va croiser le chemin d'une première jeune femme, une juive d'origine russe qui s'appelle Angelika Balabanov, et qui va lui apprendre tout. Lorsqu'elle le rencontre, il monte sur les tables, et lorsqu'il s'exprime, tout le monde pense que c'est un fou. Il vit à peu près comme un clochard, il sent fort. Elle le dit à sa première rencontre, elle est choquée plus par son odeur et son état de délabrement que par sa verve et son idéologie. Et il le dit lui-même, il l'appelle Sainte Angelika du socialisme, et il dit que sans elle, il ne serait rien, il serait devenu certainement un clochard ou un pauvre professeur. Et il lui doit tout. Elle-même, lorsqu'elle le rencontre, elle dit il s'appelle Benito, il dit qu'il s'y connaît en socialisme, mais on voit vite qu'il n'y connaît rien. Il la remerciera comment? C'est vrai qu'elle est très éprise de lui. Il dira, même si j'étais seule et qu'il ne restait plus qu'une seule femme sur Terre, je préférais faire la cour à une guenon. C'est ça aussi, la séduction de Mussolini, un vocabulaire très cru. Il va néanmoins, grâce à ce pied à l'étrier que va lui offrir cette femme, à rencontrer deux autres qui vont, une deuxième femme juive, non plus d'origine russe mais d'origine vénitienne, une femme très bourgeoise, Margarita Sarfatti, à laquelle il va véritablement tout devoir. Elle va le repérer un jour dans un colloque et décider d'acheter de ses propres deniers plusieurs journaux dont elle va le nommer rédacteur en chef, et elle va même aller jusqu'à lui écrire certains de ses discours, à lui servir de plume, lui écrire notamment son fameux discours pour la marche sur Rome. Elle va être sa maîtresse pendant 20 ans, ils vont échanger des centaines de lettres. Là encore, il aura des mots très durs envers elle. Il dira plus tard à une autre de ses maîtresses qu'il n'a rien pu faire avec elle la première nuit, tellement l'odeur de ses chairs, puisqu'elle est juive, le dégoûte. Ce sont des mots extrêmement terribles. Elle le suppliera de ne pas procéder au vote des lois anti, des lois fascistissimes qui comprennent les lois anti-juives. Il ne l'écoutera pas. Mais néanmoins, il oubliera bien vite que sans cette femme et ses deux comparses qui vont lui acheter des journaux et le mettre en avant, il ne serait rien.
Oui, de toute façon, dans les différents portraits que vous dressez, la plupart du temps, la gratitude n'est pas la qualité première des dictateurs. Enfin,
Non.
Après, il y a un cas singulier de ce qui est presque une non-femme de dictateur, qui est Félix Mina.
Oui.
Qui est donc l'amour irrésolu et jamais abouti de Salazar, qui finalement va transformer cet amour inaccompli dans un rôle d'espèce de maîtresse délation dans son métier d'institutrice.
C'est absolument très étonnant, puisque Salazar, c'est vrai qu'on le connaît peu, du fait qu'il a réussi, accordons-lui cela, à garder son pays, à maintenir son pays hors de cette Seconde Guerre mondiale et de ce conflit, ce qui lui a permis de se maintenir jusqu'aux années 70, puisqu'il en sortira grandi, contrairement à tous les autres. Salazar a vraiment réussi, du coup, n'ayant pas été ébranlé par cette guerre, à garder la mainmise sur les informations qui vont circuler hors de son pays, et il va nous faire croire jusqu'à presque aujourd'hui qu'il a mené une vie de moine entièrement dédiée à la politique et à la méditation idéologique. Or, on se rend compte que c'est absolument faux. Ce serait presque un Mussolini. En tout cas, c'est un homme qui aime énormément les femmes, la sensualité. Et très jeune, il va en effet vivre une relation sublimée avec Félix Mina de Oliveira, une jeune femme rousse qu'il rencontre sur le chemin de l'école. Et cette relation va devenir finalement très pieuse, puisque très tôt, Salazar va prendre la voie du séminaire, plus par finalement convention sociale, comme c'était fréquemment le cas à l'époque, dans les familles pauvres, que par aspiration personnelle. Et donc cette jeune femme extrêmement sensible et très pieuse va toujours se culpabiliser d'aimer un homme qui est destiné au Seigneur et va renoncer à vouloir le détourner de Jésus-Christ, car elle pense qu'elle ne peut pas rivaliser, peut-être à juste titre, avec le Christ. Et donc elle va toujours souffrir dans sa chair de ne pouvoir réaliser cet amour. Et finalement, le jour où elle va enfin accepter elle-même de, après avoir passé par des études chez les sœurs et avoir finalement renoncé à cet amour, lui va renoncer au séminaire et elle va le découvrir en train de séduire d'autres jeunes femmes, de chatouiller d'autres jeunes femmes et finalement de se promettre à d'autres et de consommer l'amour physique avec d'autres jeunes femmes, et elle va en souffrir énormément. Néanmoins, elle va dédier sa vie entière à Salazar et elle va devenir sa plus fervente, pas espionne, mais délatrice, oui, dans le nouvel état, dans l'estado novo de Salazar.
Sachant que Salazar, pour le coup, c'est, par rapport aux autres cas, c'est aussi un cas intéressant dans la mesure où c'est un usage du pouvoir qui ne passe pas par la séduction, pour le coup, par rapport
oui,
au peuple.
C'est un homme qui n'aime pas se mettre en avant, c'est un des seuls. Il est extrêmement complexé et en effet, il ne supporte pas finalement de tisser des relations intimes. C'est un homme qui ne se mariera jamais. Comme Hitler, il dira qu'il est marié uniquement à la patrie, mais c'est plutôt puisque, en effet, comme Hitler, il a très peur de l'intimité, il a très peur de perdre le contrôle. Et il n'ira jamais aussi loin avec une femme jusqu'au point de perdre le contrôle de la relation. De même, il ne se donne jamais à la foule avec sa personne puisqu'il pourrait perdre le contrôle. L'idée d'être un objet de culte, l'idée de se prendre un bain de foule, d'être prise en photo, d'être embrassé par la foule, ça le met extrêmement mal à l'aise. Il préfère la solitude de ses jardins, de ses roses. Il se réjouit véritablement des petits canards dans des mares, dans différentes de ses résidences et de différentes fleurs qu'il aime à cultiver lui-même parfois.
Ce qui du coup rend assez cocasse le retournement, que c'est justement une femme, une journaliste française, venant écrire sa biographie, ce jeu par lequel il séduit cette personne qui vient faire sa biographie, il y a un côté comme ça qui n'est pas anodin, c'est pas simplement parce que c'est une femme de plus. On peut imaginer, surtout qu'il l'accueille dans un premier temps, où elle lui pose des questions sur le rôle des femmes, il y a des réponses assez intéressantes sur le fait qu'il est essentiellement domestique. Mais et du coup, voilà, séduire la personne qui vient faire votre biographie, c'est quand même, dans tout à fait ce que vous disiez, une manifestation de volonté de contrôle tout à fait importante.
Oui, c'est très étonnant finalement. C'était complètement inconnu. Finalement, la seule femme qui va faire chavirer Salazar est une Française qui s'appelait Christine Garnier, une jeune journaliste qui débarque un jour à Lisbonne pensant faire la biographie du docteur. Et finalement, alors que c'est une jeune femme extrêmement moderne, lui, ses réponses sont au contraire très traditionnalistes, semblables une fois de plus à celles qu'aurait pu faire Hitler. Le rôle des femmes n'est à la maison, elles ne doivent pas travailler, elles n'ont finalement qu'une place extrêmement réduite en tant que matrice, finalement, dans le nouvel état de Salazar. Et pourtant, Christine Garnier va être extrêmement séduite par sa personnalité. Elle va revenir très fréquemment, délaissant son mari, puisque c'est une femme mariée, passer tout l'été avec lui. Et la relation est assez intéressante. Elle est parfois épistolaire, puisqu'elle habite à Paris. Il va lui faire envoyer des caisses d'ananas depuis les Açores, alors qu'elle est en reportage en Afrique, il va lui faire envoyer encore d'autres victuailles, et même charger son ambassadeur à Paris de l'achat d'une très jolie bague pour Madame Garnier, dont on a le prix exact. Alors qu'il est extrêmement pingre et n'a jamais souhaité dépenser le moindre denier de l'État pour son propre plaisir, eh bien, pour cette femme, il va faire une entorse, et je ne sais plus quel est le tarif dans le livre, je crois que c'est 500 francs à l'époque, demander à ce que l'on fasse une...
La banque portugaise...
Fasse une entorse au règlement et dépense 500 francs pour l'achat d'une bague à cette jeune femme. Mais ça ne l'empêche pas quand même d'avoir d'autres maîtresses en même temps.
Hein. Oui, bah, de toute façon, c'est ça qui est intéressant dans le portrait que vous dressez de Salazar, c'est qu'il y a une partie quand même authentique dans l'image qu'il a dressée lui-même de quelqu'un d'assez austère, effectivement avec un goût pour des choses entre guillemets relativement simples. Catherine Garnier est assez surprise quand elle arrive dans sa demeure. Elle s'attend à une sorte de palais grandiose, et en fait c'est une petite maison de campagne.
C'est même un cloître d'étudiants du monastère, dit-elle. Voilà. Il y a juste un peigne, un savon, une brosse à dents, il y a quelques livres et un crucifix dans la chambre. C'est vraiment un dénuement assez total. Seuls les jardins sont extrêmement fleuris, voilà. Mais c'est très étonnant d'ailleurs, puisque ils sont tous, finalement, et c'est ça qui est très dérangeant quand on décide d'étudier les dictateurs du point de vue de l'intimité, ils sont tous très authentiques, quelque part. Ils sont tous, à certains moments de leur vie, extrêmement émouvants. Ils aiment, ils souffrent. Et c'est dérangeant quand on est en train de parler de personnalités comme Staline, comme Hitler, comme Mao. Ils ont un côté, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ils ont un côté très froid, stratège, mais un autre côté, au contraire, touché en plein cœur. Ils vont, pour beaucoup, connaître le deuil d'une femme qu'ils aimaient énormément très tôt, et ce deuil va les bouleverser et sceller à jamais leur destin vers leurs aspirations les plus noires. C'est le cas pour Staline, qui se marie assez jeune à une jeune femme qu'il aime énormément. Il faut bien se rendre compte qu'auparavant, pour la séduire, ce garçon que l'on connaît comme un bourreau, chantait des petites chansons, en effectuant des pas de danse, écrivait des poèmes, était quelqu'un d'assez léger, et venait pour séduire ses deux sœurs qui travaillent dans l'atelier de couture familiale, donner lieu à toutes sortes de facéties, s'habille comme un dandy, et dès lors qu'il va la perdre, après seulement 2 ans de mariage, elle va être très, très malade, elle va décéder brutalement. Il va falloir 4 personnes pour le retirer du cercueil où l'on est en train d'enterrer cette femme. Et il va prononcer ces mots terribles en disant que tout sentiment chaleureux pour l'humanité l'a quitté. Il ne lui reste plus à présent à faire que son devoir. Et il va changer complètement de psychologie, de rapport aux autres. Il ne va plus pouvoir faire confiance à personne, ni même aux femmes. Les femmes, même les femmes, sont capables de cette chose horrible. Elles peuvent vous abandonner, elles peuvent mourir. Pensez donc, même quand on les aime. C'est horrible. Hitler, pareil, il va voir la mort de sa mère, d'abord d'un cancer, alors qu'il a 17-18 ans, puis de Geli Raubal, sa nièce de 23 ans, qu'il aime énormément et avec laquelle il habite. Et sa psychologie va extrêmement changer. Il ne va plus être capable d'habiter avec personne d'autre dès lors. Et il ne va plus s'engager de la même manière. Il va changer radicalement tout son entourage. Mao Tse-tung, c'est la même chose. Il va perdre sa première épouse, qu'il aime énormément. Il va en plus s'en sentir coupable. Il la laisse mourir. Il est parti guerroyer pour l'unité de son idéologie et de son nouveau parti, la laissant seule à Changsha avec ses enfants. Et finalement, les troupes adverses vont arriver et lui donner le choix entre renoncer à Mao, renoncer à son mariage et avoir la vie sauve ou mourir. Elle va choisir la mort. Il ne viendra même pas la voir il assistera même pas à l'enterrement, tout simplement. Et il va s'en culpabiliser un peu toute sa vie, donc en se détachant finalement des femmes qu'il aime, et il ne va plus être capable d'aucun engagement. Et tous ces hommes vont connaître au moment de leur deuil une peine sincère qui va les transformer en monstres froids. Donc c'est extrêmement perturbant et difficile de leur admettre, disons, une humanité. Car c'est bien ça dont il s'agit, c'est que finalement on se rend compte que ce sont des hommes, finalement.
Oui, parce que je pense une condition nécessaire pour penser leur trace historique. Enfin, sinon on se prive de... Si on refuse aux gens le fait de considérer les dictateurs comme des monstres est une simplification assez, assez inutile et même assez...
Dangereuse,
parce qu'elle est confortable dans la mesure où elle évite d'avoir à les considérer comme étant des nôtres.
Oui.
Mais alors il y a au sein de toutes ces histoires une qui est dont on sent que vous l'avez écrite avec un peu plus de, non pas de légèreté au sens où vous auriez moins travaillé, mais qui avait dans son récit quelque chose de plus fou et de plus farcesque, qui est Catherine Bokassa. Dans la mesure où, bon, d'abord, historiquement, Bokassa est quand même un personnage moins important que les autres personnages que vous étudiez. Et puis là, le délire atteint des proportions assez inédites.
Oui, c'est vrai que cette femme m'a beaucoup émue. J'ai été assez intriguée par son parcours.
Parce que c'est peut-être la seule qui soit quasi intégralement une victime.
Oui.
Par rapport
aux autres. Complètement. On peut le dire. Elle préfigure d'ailleurs celle qu'on retrouvera dans le deuxième volume, qui sortira en janvier, qui est plus contemporain, on en parlera.
D'accord.
Enfin. Finalement, les femmes autour des plus grands leaders idéologiques, donc de la première partie du XXe siècle et autour du conflit mondial, vont être là par choix. Ce sont des amoureuses. Alors, soit des amoureuses du pouvoir, soit sincèrement des amoureuses de leur homme, de leur dictateur. Et elles vont préférer mourir pour eux plutôt que d'avoir la vie sauve. Clara Petacci, la dernière maîtresse de Mussolini, on va lui proposer de s'échapper alors que tout est perdu, que Mussolini est saisi. On va lui laisser le choix. Elle va répondre « Vous m'avez appelée la chienne de Mussolini toute ma vie. Eh bien, où va le maître, va le chien. Je préfère mourir avec lui. » Eva Braun, Hitler va lui interdire de venir. Il va lui dire de s'échapper. Il avait tout prévu pour qu'elle puisse s'enfuir. Elle refuse. Ce sont des femmes qui les aiment sincèrement. Et dès lors qu'on avance vers des régimes encore plus paranoïaque, encore plus politique, dès lors qu'on avance dans le temps vers les années 70, 80, on baisse quelque part en idéologie et on augmente en violence, et les femmes vont devenir presque entièrement des victimes. C'est le cas de Catherine Bokassa, qui est saisie un jour sur la route de l'école, qui est tout simplement enlevée et violée par Bokassa, il faut le dire, qui a déjà énormément de femmes, qui en épousera énormément d'autres après elle, mais c'est la seule qu'il a dans la peau. Elle est d'origine tchadienne, donc elle est extrêmement belle, elle a un très grand cou, avec une peau superbe, et il va ne jamais pouvoir se détacher de cette femme, mais il n'est pas le seul. C'est vrai qu'elle va, dès le jour du sacre, un homme devant son poste de télévision à Paris va la remarquer énormément, c'est le président Valéry Giscard d'Estaing, qui va être extrêmement séduit par cette femme. Et on découvre, et au cours de mes investigations, j'ai découvert une chose assez incroyable, c'est que finalement l'affaire des diamants n'avait été lancée par Bokassa que comme volonté de se venger de Giscard, pour ce qu'il croit tout simplement être un cocufiage élyséen. Bokassa a en effet cru toute sa vie, alors il y a certaines preuves qui tendraient à montrer que finalement il n'était pas si loin de la vérité, que Giscard ait eu une liaison avec Catherine Bokassa. Il la convie plusieurs fois à Paris, en effet. Au moment où Bokassa est destituée et envoyée à Abidjan, elle va rester à Paris quelques mois et elle va, lorsqu'elle arrivera un petit peu plus tard auprès de lui, fournir un certificat médical qui a été établi par un médecin proche de l'Élysée. qui lui interdit toute relation intime avec son mari. Et Bokassa va devenir fou. Il va imaginer que non seulement Giscard possède sa femme, mais lui interdit en plus de la posséder par l'intermédiaire de son médecin. Il va dès lors appeler Roger Delpé, qui est le journaliste qui va faire paraître les informations au Canard Enchaîné. Et Roger Delpé viendra avec un ami qui s'appelle André Lemaignan. Tous deux vont, avec Bokassa, élaborer le plan de l'affaire des diamants comme vengeance. Et donc Roger Delpé étant décédé, mais son complice, on va dire, André Lemaignan étant toujours vivant, m'a fait consulter les carnets de Roger Delpé et m'a parlé lui-même de cette période. Et en effet, on constate que des mois avant, 6 mois avant que l'affaire n'éclate, Bokassa va se plaindre à Omar Bongo. Il va envoyer une lettre qu'on a pu retrouver à Omar Bongo en lui disant qu'il souffre énormément puisque Giscard a séduit et possédé sa femme. Plus de 6 mois avant, il en parle déjà. Et encore avant, dans l'été, durant l'été, lors d'un sommet, je crois, à Kigali, il va, alors qu'il est sous à son habitude, il va menacer la France et Giscard en disant « S'il n'arrête pas, s'il ne renonce pas immédiatement, je dirai tout et ça lui coûtera la présidentielle ». Personne n'avait compris à quoi faisait référence Bokassa, puisque l'affaire des diamants n'advient que 6 mois après. On est bien sûr que 6 mois avant, et voilà, Bokassa fait référence à ce dont il est persuadé. Alors la preuve ultime, bien évidemment, on ne l'a pas, on ne l'aura jamais, puisqu'il faut être...
Peut-être que Giscard fera un livre. Hein.
Non, mais finalement, on se rend compte que dans le livre qu'il a sorti précédemment sur la princesse Diana, il y a beaucoup de détails que m'ont révélé les autres personnalités. Donc finalement, Il est comme si Giscard nous avait détourné peut-être de sujet d'une princesse vers une impératrice.
D'accord. Et une question peut-être plus générale. Dans le récit que vous faites, à un moment, il y a un passage assez étonnant justement où vous expliquez donc Eva Braun qui est complètement coupée de la réalité volontairement par Hitler, interprète l'ensemble des événements historiques et des actions d'Hitler au niveau de la guerre européenne comme étant une logique individuelle qui a pour but de s'éloigner d'elle, etc.
Oui.
Alors, donc il y a ça, et j'aurais tendance à vous retourner la question qui est-ce que par moment vous n'avez pas la crainte que justement cette vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, mais que cette analyse psychologique, cette étude des cas intimes s'éloigne du contexte, enfin, je ne sais pas si je suis extrêmement clair dans ma question.
Alors non, mais... puisqu'en effet, il faut préciser que ce n'est pas une étude psychologique.
D'accord.
C'est une étude qui se base uniquement sur les faits historiques.
Oui.
On est dans la partie psychologique uniquement dans la mesure où j'ai travaillé sur les journaux intimes et les correspondances privées échangées entre, alors soit directement les amants ou les époux, soit les lettres laissées par exemple entre Eva Braun et sa sœur ou ses meilleurs amis. Donc on est pas dans l'étude psychologique, on n'est donc pas dans la conjecture historique, ni dans la romance.
Oui,
on est uniquement, j'ai réussi donc par toutes ces lettres et tous ces documents à pouvoir recouper tous les événements et reconstituer des biographies de ces femmes, chose que l'on n'a pas. Il n'existe pas à ce jour de biographie d'Elena Ceausescu. Par exemple, sur le deuxième volume sur lequel je travaille, il n'y a aucune de ces personnes qui n'ont des biographies qui leur sont dédiées. C'est extrêmement difficile. Néanmoins, j'ai justement essayé de m'éloigner, même si parfois on est dans l'anecdote, puisqu'il faut bien incarner le récit. L'idée étant de faire un livre qui soit tout simplement agréable à lire. On peut aimer l'histoire, mais parfois de très grosses biographies sont assez imbitables sur 500 pages, il faut le dire. À finalement, parfois, vouloir rester trop objectif, on perd le lecteur et on perd finalement l'intérêt qui est aussi parfois d'incarner et de pouvoir se retrouver dans ce que l'on lit et dans ces personnages historiques. Ce sont des femmes qui sont extrêmement modernes. J'ai juste essayé dans la narration de leur rendre ce côté moderne. Finalement, ce sont des jeunes femmes qui ont à l'époque 30 ans, qui se rêvent comédiennes, actrices, qui pensent sortir avec le Mick Jagger de leur époque. Et qui croient vivre la romance de leur vie. Donc parfois, en effet, je rends certaines anecdotes comme le choix d'une fourrure Ferragamo pour Eva Braun, parce qu'en effet, pour elle, c'était véritablement un choix existentiel, plus encore que le destin de l'Allemagne. Donc ce qui peut paraître comme une anecdote ou finalement un travers psychologique, finalement un fait historique, c'est que toutes ces correspondances, et même la dernière lettre qu'elle va écrire dans le bunker, tout est perdu. Elle va se suicider 2 heures après. C'est à sa sœur, tiens, alors tel bijou que j'ai laissé chez le joaillier, il faut que tu ailles le chercher. Puis alors un tel, tu le donneras à ma copine, et un tel, tu le mettras toi-même. Et puis mon émeraude, là, tu sais qu'Alfie m'avait offert pour mon anniversaire. Ah, je voudrais que tu l'aies. Elle va encore penser, finalement, ce sont ses derniers mots. C'est tout son petit univers, très égoïste, certes. Mais donc, voilà, c'est tout simplement la réalité historique qui, finalement, est comme ça pour elle.
Oui, non, c'est sûr, c'est un très beau travail d'incarnation. À plusieurs reprises, vous avez évoqué un tome second.
Oui. Oh, dis donc, quelle surprise. Justement, puisque vous en parlez.
Donc, a priori, vous disiez donc plus orienté sur des figures un peu plus contemporaines.
Celui-ci est vraiment autour de la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'était pas de faire uniquement un glossaire de toutes les femmes de dictateurs pêle-mêle, mais quand on le lit, on se rend compte que certaines vont se croiser ou se répondre les unes aux autres. En tout cas, tous ces dictateurs vont s'affronter, finalement, il faut le rappeler, les uns contre les autres en même temps. Et certaines des épouses, on parlait tout à l'heure d'Angelika Balabanov, cette formatrice de Mussolini, on va la retrouver après chez Lénine. Et elle va être finalement une de ses ministres et une de ses plus fidèles conseillères. On parle d'Elena Ceausescu, elle va aller prendre conseil chez Madame Mao en se rendant compte qu'elle tient finalement le peuple chinois et la propagande chinoise d'une main de maître. Donc toutes vont être imbriquées les unes aux autres. Donc voilà, l'idée c'était de faire un essai où on est dans la même période historique, dans la même esthétique, dans le même temps. J'ai débordé vers les Ceausescu puisque tout simplement c'était le régime communiste qui découle de cette Seconde Guerre mondiale. Et là, je travaille sur un deuxième volume qui est plus en couleur, on va dire, bien que le premier soit pas triste, vous verrez, qui est véritablement autour des années 80, avec... on change complètement d'air diplomatique et d'enjeu, et on change de guerre. On est autour de la guerre Iran-Irak avec Saddam Hussein, Khomeini, Ben Laden également, puisqu'il découle bien évidemment de ses formateurs qui vont être ses premiers leaders arabes pour lui. On est d'un autre côté avec Fidel Castro et l'héritage de Guevara et comment Fidel Castro va utiliser la veuve Guevara et l'image des femmes pour mettre en œuvre sa révolution. On est en Afrique avec Amin Dada et on sera en Europe avec Milosevic, la dernière guerre qui a failli embraser l'Europe. Et pour bien sûr pas laisser nos amis asiatiques de côté, avec Kim Jong-il, qui finalement est une des seules dictatures qui reste complètement secrète et hermétique à nos jours. Voilà, donc en janvier, donc un an après le premier, j'espère avoir terminé en janvier ou en février au plus tard.
Est-ce que vous avez aussi un roman en préparation non, pour la rentrée ou voir sur votre...
J'ai un projet de roman, d'accord. Mais il ne sera pas du tout pour la rentrée puisque ça d'accord. demande énormément de travail. Donc j'ai arrêté toute autre activité professionnelle, à part les émissions de Laurent Ruquier sur On va se gêner sur Europe 1, qui demandent pas, qui sont plutôt un repos intellectuel. Ceux qui l'écoutent s'en rendront compte facilement. non, j'ai arrêté toute autre activité. On ne peut pas faire ça... sérieusement, au contraire, je défends vraiment les auteurs qui, même si ça veut dire des conditions financières pendant un an ou deux très difficiles, on ne peut pas prétendre instruire, divertir les gens si l'on n'a pas sincèrement passé une, deux ou trois années à ne faire que ça et à être sûr de son travail et à être honnêtement et à pouvoir... répondre devant eux de chacune des phrases. Et, voilà. Sinon, ce n'est pas du boulot, il faut faire autre chose.
ce qui apparaît clairement, effectivement, dans ce livre, avec entre autres le travail assez, assez important de publications d'inédits, que ce soit de correspondances privées ou de journaux, que vous avez fait. Écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous, merci à tous d'être restés.